On a sauté, Parchat, Midbar. On est dans Parchat Masso. Je ne vais pas faire tout le chemin. Et on va s'arrêter sur quelque chose de marquant, en quelque sorte. Dans cette paracha de Masso, plusieurs récits sur les situations tout à fait particulière. Le début, c'est un peu la suite de Bamidbar, de la paracha de Bamidbar, du recensement, des Lévim, etc. Et puis, ensuite, le premier sujet qui arrive un peu personnel, si on peut parler comme ça, c'est la sota. Donc, dans la quatrième montée, c'est le verset Yudalef du Perekhe. Et il y a, donc c'est une histoire avec une femme. Et ce qui est remarquable, c'est que à la fin du Sefer Bamidbar, il y a de nouveau une histoire particulière où les femmes jouent effectivement un rôle particulier. C'est l'histoire des cinq filles de Tzofrot. Les cinq filles qui réclament, qui s'adressent à Moshe en faisant remarquer que si on ne leur donne pas à elles l'héritage, parce que comme elles n'ont pas de frère, donc ça veut dire que leur père n'aura pas eu l'héritier direct. Quand l'héritage ne peut pas se faire de haut vers le bas, on remonte, puis ensuite ça distribue vers les frères du défunt. C'est-à-dire, ce seraient leurs oncles qui auraient hérité de la part qui revient à leur père. Donc ça veut dire que le nom de leur père ne sera pas perpétué dans le partage des terres en Eretz Israël. Donc elles demandent qu'elles aient une part, et comme vous savez, elles sont adressées à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a rapporté leur question à Hachem, et Hachem a dit que les Bnot Tzofrot, Ken, elles parlent droit, elles parlent juste. Le Targum va dire, elle parle de façon tout à fait adéquate. Elle parle, c'est très beau ce qu'elles disent. Et en fait, on a l'impression qu'elles ont vu quelque chose que Moshe Rabbeinu n'avait pas vu. Donc elles ont mérité d'avoir une part dans la Torah. Il y a une partie de la Torah qui a été écrite, dévoilé grâce à elle. Donc, on a d'un côté le problème de la sota au début, donc, du Sefer Bamidbar, et à la fin, on a en parallèle, en quelque sorte, en opposition, on a l'histoire des cinq filles de Tzofrot. Bien sûr, il y a les grandes différences, mais peut-être que d'abord, ça a en commun de concerner des femmes. Donc, c'est quelque chose de ce point de vue-là, quelque chose de spécial. Les cinq sœurs en question, elles mettent en avant, il y a une certaine injustice dans leur situation. Seules héritières de leur père, et Hachem leur donne raison. La sota, au contraire, elle représente une situation très incertaine, parce que dans l'histoire de la sota, on n'a pas de certitude. C'est une situation un peu étrange. C'est-à-dire que dans ce cas-là, Par opposition à ce qu'on voit dans les filles de Slofrod qui, elles, parlent, la Sota, elle ne parle pas. Tout ce qu'elle va dire, c'est Amen, Amen. Le Cohen va dire des choses, et il va dire que, va parler de Klalot qui vont lui tomber dessus le cas échéant, si elle est adultère, et elle dit Amen, Amen. Elle accepte de tout ce qu'elle dit. Alors, autant elle, les filles de Slofrod sont actives, elle est passive. Complètement passive. Et c'est un peu étrange parce que quand on décrit ce qui se passe avec les filles de Slofrod, le pasouk dit que elles se sont approchées. Vous pouvez regarder le chapitre 27 de Bamidbar. Regardez dans le chapitre 27 au début du chapitre. Kavzaïn, donc. Le pasouk dit Vatikravna bnot Slofrod, ben Refer, ben Gilad, ben Machir, ben Menaché, le Mishpechot Menaché ben Yosef. Elles se sont approchées. C'est s'approcher. Cette notion de cette idée de Vatikravna, de la Shon Karov, et c'est une expression qui a l'air de dire que elles sont devenues proches. Proches de quoi? Quand on utilise d'ordinaire, quand on utilise cette notion de kirouv, de karov, c'est-à-dire s'approcher d'Hachem. Et donc, on a à faire une démarche qui est un mouvement vers Hachem, si on veut. Une démarche un peu qui, elle, est positive, mais c'est une démarche qui est aussi la démarche de Nadav et Avihu, les fils d'Aaron, qui eux aussi s'approchent. Mais eux, ils s'approchent de trop et pas de la bonne manière. Et on a toujours cette règle qui est répétée plusieurs fois, que Hazar à Karov, l'étranger qui est Karev, Yomat, il est passible de mort. C'est-à-dire que il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas s'approcher de trop. Il faut avoir le droit de s'approcher. Et elles prennent l'initiative de s'approcher. Bon, elles le font dans les règles, n'est-ce pas? Elles s'approchent, elles consultent, mon cher Rabbeinu, elles ne vont pas directement réclamer chez Hachem, en quelque sorte. Mais elles se tiennent face à... Elles s'approchent de Moshe, se tiennent devant lui, se tiennent devant les skénim, devant les chefs des tribus, etc. Et Chazal vont dire qu'elles voient quelque chose que Moshe Rabbeinu lui-même ne voit pas. La Sota, on décrit aussi l'histoire de la Sota avec le même verbe, en quelque sorte. Elles aussi, elle aussi, la sota, le corban va, le Cohen va la rapprocher. Elle aussi, elle va être rapprochée. Bon, c'est marqué dans le verset Tetzain, c'est-à-dire le verset 16 de notre parasha, dans le chapitre 5. Le pasouk dit Véhikriv ota. À Cohen. Le Cohen l'approche, il approche la sota. Vehemida, il l'a fait tenir l'ifne Hachem, exactement comme les filles de Tzlofrod qui s'approchent et qui se tiennent devant. Donc la sota aussi, Elle est mise en présence d'Hachem, si on peut parler comme ça. Au même endroit. Tout ça, ça se passe, semble-t-il, au même endroit. Sauf que la Sota, c'est pas elle qui prend l'initiative de s'approcher. C'est le Kohen qui approche la Sota. Alors que les cinq sœurs, elles s'approchent. Ce n'est pas un Kohen qui les approche, elles s'approchent d'elles-mêmes. Et tout ce qui se passe avec elles, avec la Sota, c'est toujours le Kohen qui l'approche, c'est le Kohen qui l'a fait jurer, c'est le Kohen qui l'a fait boire. Donc, quelque part, elle est d'une certaine façon, et d'ailleurs même toute sa démarche, c'est son mari qui l'amène au Mishkan. Donc, c'est une femme complètement passive, au début, puis à la fin de Bamidbar, une femme tout à fait active. Très actives, puisqu'elles produisent de la Torah, si vous voulez. Il y a encore autre chose. Les sœurs, lorsqu'elles exposent leurs problèmes, elles parlent de leur père, et elles disent que leur père est mort parce qu'il a été condamné à mort. Leur père, c'est le Mekoshesh Etzim, c'est celui qui a coupé du bois pendant Shabbat, mais elles mettent l'accent sur le fait que notre père, c'est pas quelqu'un qui était dans le groupe des partisans des explorateurs. Notre père, c'est quelqu'un qui, c'est vrai, il est mort parce qu'il a fait une faute. Et bon, et n'ayant pas d'héritier mâle, alors d'une certaine manière, il n'aurait pas de suite. Il n'y aurait pas de suite de. Il n'y avait pas trace de lui dans la suite du clan d'Israël. Donc, elles disent bien clairement, voilà, notre père n'est pas parmi ceux qui se sont révoltés contre Hachem. Certains disent que le Mekoshesh Etzim l'a voulu, au contraire, montrer que les interdits du Shabbat, c'était des vrais interdits et qu'on ne pouvait pas impunément les transgresser. Bon, ça pose toutes sortes de problèmes, mais en tout cas, il n'était pas dans ceux qui sont révoltés contre Hachem, dans le sillage donc des Mraglim, des explorateurs. Alors, si on regarde de façon un peu plus si on peut mieux un peu plus détaillé les halachot de la sota, cette procédure de sota. Alors, je vous ai dit, le problème, il est que c'est une situation de doute. On ne sait pas du tout ce qu'il en est. D'accord? Reprenons le pasouk, Yud Alef, Yud Bet, chapitre 5, donc, de Hey. 11 et 12. Taber el bnei Israël, ve'amarta alehem. Hashem dit à Moshe Rabbeinu, parle au bnei Israël et dis-leur. Ish, ish. Alors ici, c'est intéressant, il y a cette répétition du ish. Ish. A priori, ish, normalement, c'est quelqu'un de grand, c'est vraiment un homme, c'est pas quelqu'un de léger. mais on dit « kitiste ishto ». Cet homme, c'est un homme dont la femme, « tisté », ça veut dire « elle a dévié ». Elle a dévié du bon chemin, en quelque sorte. « Umala bo mal ». Et elle a trahi la confiance de son mari. « Veshachav ish ota ». Et il y a un autre homme, un autre ish, qui a donc eu un rapport avec elle, Shikhvat Zera, un vrai rapport sexuel donc, une relation complète. Venelam mene isha. Et cette chose-là, le mari, la chose a été cachée aux yeux du mari, donc le mari n'en a rien su. Venistera, elle s'est isolée, venitmea, et le texte a l'air de dire, et elle s'est rendue impure, ve'et enba, mais il n'y a pas de témoin de cet adultère. Vehi, l'on n'est pas ça. En tout cas, a priori, on parle d'une femme qui a commis cet adultère et elle n'a pas été violée, elle n'a pas été violentée, elle était consentante. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose, un adultère. Le mari n'en a rien su, mais avar alav ruarkina. Mais il vient sur lui un esprit de jalousie. Donc, on ne sait pas pourquoi, quelque part, sans qu'il ait absolument de... Il n'a pas d'information. Il a une impression. Lui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il a un esprit de jalousie. Il ressent qu'il a lieu d'être jaloux, donc de soupçonner sa femme de quelque chose. Donc il est jaloux. Il y a cette ambiguïté. Kina et ishto. Et il avertit son épouse. C'est-à-dire, il a averti, ça veut dire il lui a interdit de s'isoler, même de parler avec la personne dont il soupçonnait qu'elle avait eu éventuellement une relation avec son épouse. Veinitmea. Donc il l'a averti, et l'avertissement, il avait lieu d'être parce qu'elle était vraiment, elle avait vraiment été adultère. Ou bien, avara lavruarkina, on reprend les mêmes termes, un esprit de jalousie, vekina et ishto, et il a averti sa femme, veilon itmea, mais elle n'avait pas été adultère. Bon, lui, on sait que lui, il est jaloux, à tort ou à raison. Vevi haish et ishto el kohen. Donc cet homme, il va amener son épouse chez le, enfin, vers le Cohen, et il va amener une mincha, littéralement son korban. Il apporte donc un korban, le korban de la femme, mais c'est lui qui doit l'amener. Ce korban, c'est pas un animal, c'est Asirit ha'efa kemach, c'est orim. Alors c'est une offrande qui donc on nous donne le volume de farine, un dixième d'efa, et c'est de la farine de seorim, c'est-à-dire d'orge. Et dans les menachot, dans les offrandes, certaines sont plus ou moins huilées, c'est-à-dire plus ou moins grasses. Ici, en l'occurrence, il y aura pas d'huile. Il n'y aura pas non plus de ktoret, le vona, donc il n'y aura pas du tout d'encens. Pourquoi? Parce que c'est une mincha, une offrande de jalousie. C'est une mincha, une offrande, littéralement minchat zikaron, le souvenir. Quel souvenir? Masgeret avon. Il rappelle une faute. Alors, vous voyez, c'est elle, a priori, doit amener une offrande, mais c'est lui qui l'amène pour elle. Et puis l'offrande, elle est tout à fait particulière, parce que comme vous savez, dans le Beit HaMikdash, dans le Mishkan, les offrandes étaient toujours faites avec du blé. C'était pas de l'orge, c'était du blé. Alors, on a dit, il y a une exception, à part celle-ci. Il y a une exception, c'est que quand quelqu'un apportait un korban toda, quand quelqu'un apportait un korban qui exprimait sa reconnaissance, alors avec la viande qui était amenée aussi, il y avait des offrandes. Donc, une partie était chametz, une partie était matzah. Donc ça, c'est déjà un peu spécial, parce qu'il y avait donc du chametz, qui normalement, il n'y en avait pas. Et ici, en fait, ça a ceci de particulier, c'est que c'est seorim, c'est aussi une exception, c'est aussi l'autre offrande qui est en termes de seorim, c'est celle dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, qui était le homer. Le homer, c'est aussi une offrande, une mincha, qui était en orge. C'est le seul cas, à part celui-ci, de la sota, où on a de l'orge et pas du blé. L'orge étant considéré comme une nourriture plutôt pour la nourriture animale et pas la nourriture humaine, c'est le blé. Donc ici, il y a déjà une allusion, éventuellement, puisque ça rappelle une faute. Donc on ne sait pas du tout s'il y a eu une faute, n'est-ce pas? Mais ça rappelle pour l'homme qui amène sa femme dans cette situation, dans ce processus-là, ça rappelle quelque chose qui est un comportement qui n'est pas le comportement humain tel que la Torah le veut.
Allô? Oui, bonsoir, monsieur. D'accord, merci
bien. Bien. Voilà ce qui doit être apporté. Et à ce moment-là, donc vous voyez, c'est déjà l'homme qui a amené son épouse vers le Cohen. Maintenant, Veikrivota Cohen, Ve Emida Lifne Hashem. C'est le Cohen qui la rapproche. C'est pas elle qui s'approche. C'est elle est agie par, enfin, elle est manipulée littéralement par le Cohen, par son mari. Velakach Cohen, le Cohen, il va prendre Maïm Kudoshim, Kli Cheres. Il va prendre de l'eau sacrée, en fait, ce que c'est, dans un ustensile en argile. Ou min ha'afar asher yé bekarka mishkan, ikach ha'kohen. Il prendra aussi de la terre qui est sur le sol du Mishkan. Venatan el ha'maim. Et il va mettre ça dans l'eau. Donc il va la mélanger dans la mettre dans l'eau. Alors, où est-ce qu'il y a de la terre dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash? Par exemple, dans le Beth Amikdash, le sol était dallé. Mais il y avait une dalle qui n'était pas scellée. Et cette dalle-là, elle était donc mobile. Et c'est sous cette dalle-là qu'on ramassait de la terre, qu'on allait mettre dans le cas échéant, donc qu'on allait mettre dans le cli en argile, dans l'ustensile en argile rempli d'eau. Et cette dalle qui n'est pas scellée, il fallait qu'on sache où elle est, parce que il y a une halakha que les Kohanim, comme vous savez probablement, les Kohanim étaient nu-pieds dans le Mikdash, Mishkan aussi, mais dans le Mikdash. Et il ne devait rien y avoir qui soit une chatzitsa entre le sol et leurs pieds. Alors, quand les dalles sont scellées, alors il n'y a rien entre les dalles et le pied, c'est parfait. Mais à partir du moment où on a une dalle qui n'est pas scellée, alors cette dalle-là, elle fait une chatzitsa entre le sol et leurs pieds. Alors, on ne faisait pas la avoda, un Kohen qui faisait la avoda, il ne se mettait pas sur cette dalle-là. S'il avait fait la avoda sur cette dalle-là, alors ça aurait posé un problème parce qu'il n'était pas vraiment sur le sol du Mikdash. Mais on savait où était cette dalle, c'était bien connu où elle était, et donc pour la avoda, les Kohanim faisaient attention de ne pas recueillir du sang ou ne pas faire une avoda quelconque avec un pied sur une dalle de ce type-là. Enfin, sur cette dalle-là, pardon. Ensuite, le Kohen, on répète, Vehemida Kohen et Aisha Lifne Hashem. En vérité, on l'a déjà dit. Donc, la femme est toujours devant Hashem. Le Kohen vérifie qu'elle est vraiment devant Hashem. Elle est là debout. Ufara et Rosh Aisha. Et le Kohen va détruire sa coiffe, ou il va la décoiffer. Et puis, il va lui mettre sur... La femme, elle va mettre ses mains, la paume vers le haut, et il va déposer justement cette offrande, cette mincha, sur ses mains. Et le Kohen, lui, il aura le récipient avec les eaux. Ces eaux sont appelées déjà ici des eaux harerim, on en traduit par des eaux amères. Mais dans la racine de Meharim, on a le mot Arour, qui veut dire, qu'on utilise, qu'on traduit en général par maudit. Alors, pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? On va le voir plus loin, parce que le Kohen va prononcer des malédictions. Donc, ces eaux-là sont des eaux qui sont vues comme des eaux amères. Alors, pourquoi est-ce qu'elles sont amères? Est-ce que c'est une amertume physique ou une amertume parce que le processus est un processus amer? Mais en tout cas, dans la face, si on avait voulu dire des eaux amères, on aurait simplement écrit mais à Marim, et c'est tout, et pas Marim, mais à Marim. Mar, ça veut dire amer, mais à Marim, c'est tout, ça suffit. À Marim, ça ajoute quelque chose, ça ajoute cette dimension de klala, de malédiction. Donc, la femme est là, elle est là, elle est devant Hachem, elle tient dans ses mains, la mincha. Et maintenant, le Kohen va la faire jurer. Vehishbiya ota. Un serment, ça se dit une shvoa. Ou vehishbiya ota, il l'a fait jurer. Donc, normalement, quand on fait jurer quelqu'un, on lui demande de prononcer le serment. Mais il n'est pas nécessaire que la personne prononce tout le serment, il faut qu'elle endosse le serment. Elle va endosser le serment en disant « Amen » à ce serment. Sur une chevoie, quand on est machbie à quelqu'un, on lui dit « Voilà, je veux que tu jures ça et ça, que tu acceptes ce serment-là, tu es engagé par cette acceptation ». La personne répond « Amen » et c'est comme si elle avait elle-même prononcé la totalité du serment. Donc, c'est ce que va faire le Kohen. « Vishbiya ota a Kohen, ve'amar el aisha » Vous voyez, vous entendez bien qu'il y a ici des redondances, parce que si on dit que le Kohen va la faire jurer, ensuite, qu'est-ce que ça veut dire « ve'amar el aisha » Évidemment, à qui est-ce qui va le parler? C'est bien à elle qui va parler. Et voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, « Imlo shachav ish otach. » Si un homme n'a pas eu de commerce avec toi, il n'a pas eu de relation avec toi. « Vimlo satit. » Et si tu n'as pas dévié, « Tuma tachatisher. » C'est-à-dire, tu ne t'es pas tu t'es pas embarqué dans un chemin déviant, qui est le chemin de la Touma par rapport à ton mari, Hinaki soit complètement propre, c'est-à-dire non touché, pas affecté du tout. Dans ce cas-là, donc ça veut dire, ça voudra dire tu es innocente, mais Mimé Amari Mamori Maele. Tu ne seras pas touché du tout par ces eaux amères, on va utiliser le fait que c'est des eaux qui provoquent la malédiction, disons. Ça, c'est donc, il lui dit d'abord, sache que si, en fait, ton mari, il est jaloux, mais en vérité, sa jalousie, elle n'est pas justifiée en réalité. En tout cas, pas justifiée par quelque chose de totalement interdit, qui est un adultère. On peut très bien imaginer que cette personne a, dans le texte de la Mishnah, on voit que le mari lui dit « ne parle pas, je t'interdis même de parler avec, avec machin, là, celui, cet homme qu'il soupçonne d'être éventuellement l'amant de sa mère, il lui dit, je ne veux même pas que tu parles, tu lui parles. Alors c'est une façon de parler, de dire, je ne veux pas que tu parles, en fait. Mais on peut très bien imaginer que sans qu'il y ait jamais eu d'avéra entre cet homme et cette femme, mais que peut-être il y a une connivence entre ces deux personnes, elles partagent quelque chose qu'éventuellement le mari ne partage pas, je ne sais pas moi, ces deux personnes qui aiment particulièrement une musique, bon, ils échangent beaucoup sur la musique, sur savoir si l'interprétation de celui-ci ou de celui-là est la meilleure, etc. Est-ce que le disque édité cette année-là, il est meilleur que celui qui a été édité 3 ans après, etc. Il peut y avoir une connivence qui dérange le mari, effectivement. Et qui peut lui laisser penser que cette connivence, elle va peut-être plus loin que ça. Même si c'est complètement faux. Donc la première chose, si vous voulez, il dit à la femme, tu n'as rien à craindre de tout ce processus-là si en vérité tu n'as pas commis l'adultère. Mais après, il lui dit, mais bon, ça c'est dans l'hypothèse où tu n'as pas commis. Ve'at ki satit. Et si tu as dévié, tachatisher, alors que tu étais marié avec ton mari, et vechi nitmet, et que tu as été souillé, donc tu as commis un adultère, vaiten ish bach et shichvato mi baladeisher. Et s'il y a un homme, donc, qui a et mis sa semence en toi, à part ton propre mari. Donc, ici, il dit, et si c'est ça, alors, Vishbia Kohen et Aisha, Vishvuat Ha'ala. Alors, le Kohen va lui faire accepter un serment. Un serment de Allah, c'est de nouveau une forme de malédiction. On traduit un serment d'imprécation. Et il va dire, le Kohen à la femme, il va lui dire, « Iten Hashem otach le'ala v'lishvoa betochamech. » Alors, que Hashem fasse de toi une espèce de une référence dans les malédictions, dans les imprécations et dans le serment, c'est-à-dire la chevoie, le toch amer au sein de ton peuple. Comment? Peut-être en ce que Hachem donne et Yerecher Nofelet, Hachem va faire en sorte que, bon, ils ont traduit dans le Hanskol, ils ont traduit, fera s'enfler ton ventre et s'effondrer ton flanc. C'est pas tout à fait Yerecher d'abord Nofelet. Vet Bitner Tsava, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis dans l'autre sens. Donc, ton ventre va tomber littéralement, va enfler, non, Tsava, c'est qu'il va tomber, il va enfler. Et ton Yerech, a priori, c'est le bassin qui va s'effondrer. Ubaou Amaim Amorim Aele, et ces eaux de malédiction qui vont entrer en toi, que tu vas boire d'ailleurs, ils vont entrer, Bémé Haïr, dans tes entrailles. Et c'est ça qui va faire l'Asvod Baten, l'asphod beten ve l'anpil yarech. C'est ça qui va entraîner justement cet effondrement de ton. Enfin, d'abord, cette inflammation de ton ventre et cet effondrement de ton bassin. Et donc, et c'est là que la femme dit ce que je vous ai annoncé. Ve'amra ha'isha, amen, amen. Elle doit répondre deux fois, amen. Et alors, cette malédiction, là, cette imprécation, le Kohen va l'écrire. Il va l'écrire, c'est écrit Bassefer, ça veut dire qu'il va en faire un rouleau, un petit livre de la parasha de Sota, cette parasha que nous sommes en train de lire, elle va être reproduite sur un parchemin. Umacha el me amarim. Et le Kohen va faire en sorte que ce qui est écrit sur ce rouleau soit effacé en mettant ce rouleau dans l'eau. Donc l'encre va se dissoudre, va se répandre dans l'eau. Veishka et Aisha et me amarim amarim. Et le Kohen va donc donner à boire à la femme ces eaux amères de malédiction dont on a parlé plus haut. Ce sont ces eaux qui sont dans le cli, dans un ustensile d'argile, rempli d'eau, ce qu'il a présenté ici, d'eau sacrée, dans lequel on a effacé le contenu donc de cette paracha de la sota. Ubaouva amaim amorim lamarim. Et ces eaux-là vont, ces eaux amères, etc., elles vont entrer en elle, elle va le boire, donc elles vont circuler dans son corps. Le Kohen va prendre, je vous rappelle que la femme, elle est toujours là avec sur les mains, elle tient toujours cette fameuse mincha que son mari a apporté pour elle. Venif et ta mincha, et le Kohen va balancer la mincha devant Hachem. C'est-à-dire qu'en vérité, il va mettre ses mains sous celle de la femme et, enfin, juste à côté, et il va balancer, comme on balance les bikurim, comme on a balancé les bikurim à Shavuot, il va balancer cette offrande devant Hachem, devant le Mizbeach. Puis ensuite, il écrit Vota El Amizbeach, et ensuite, il va l'approcher sur le Mizbeach, comme on approche toujours une mincha. Alors, comme vous savez probablement, quand on apporte une mincha, le Kohen, il prend une partie de la pâte dans sa main, il arase le contenu qu'il y a avec le pouce et avec l'auriculaire, de telle sorte que on a une petite boule qui tient sur les trois doigts du milieu. Et c'est cette partie-là, qui s'appelle le kometz, qu'on va mettre sur le misber et qui va être consumé. Et tout le reste de la mincha va être mangé par les kohanim. C'est ce qu'on dit ici. Le kamas ha-kohen min ha-mincha et azkarata. Et le kohen, il va prendre une poignée, donc, comme je vous ai dit, de la mincha, il la mettra à brûler complètement sur le misbeach, et ensuite, v'iktir, et donc il consumera ce comète sur le misbeach, v'achar yashke, ensuite il fera boire à la femme les eaux, là, donc on a dit qu'elles allaient venir, ça c'était l'annonce, Concrètement, maintenant, c'est à ce moment-là qu'il va la faire boire. Et alors, voilà ce qui va se passer. Donc, il lui fera boire. Il y a beaucoup de redondance, évidemment, dans ce texte, parce qu'on apprend toutes sortes de choses sur lesquelles on ne va pas entrer maintenant dans le détail, sur la procédure. C'est une procédure assez longue et très fatigante. Et alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui a été annoncé, c'est si la femme était adultère, imnit mea, alors vatimol ma'al beisha, si elle a été adultère, alors les eaux vont entraîner justement pour son ventre et pour son bassin, ce qu'on a annoncé, va'eta haisha le'ala bekervama. Et cette femme, elle va devenir une espèce de modèle d'imprécation dans le clan d'Israël. Vimlo nitma. Et si elle est innocente, si en fait il n'y a pas eu d'adultère, Teorai, elle est pure. Venikta, Venizra, Zara. Alors elle sera déclarée, elle sera complètement propre, c'est-à-dire elle sera non affectée. En fait, on veut dire, elle ne sera pas affectée négativement. Parce que tout au contraire, Venizra, Zara. Au contraire, elle va être enceinte, en fait. Zot Torah Taknaot Asher Tiste Isha Tachat Isha Venitmea. Et c'est ça la Torah de la jalousie, en fait. Lorsqu'une femme a dévié par rapport à son mari et qu'elle a été adultère, ou bien O Isha Asher Tavor Alav Ruach Kina Vekina Et Ishto Vemid Et Aisha Lifnei Hashem, ve'asala Kohen et kol la Torah azot. Ou bien c'est passé par la tête de cet homme, cette jalousie là. Donc il a amené la femme chez le Kohen, etc. Et le Kohen l'a placé devant Hashem. Il lui a fait toute cette kol la Torah azot, toute cette procédure. Venika aish me avon ve'aisha ait isa et avona. Et l'homme, s'il s'avère que la femme était adultère, l'homme sera nika, de nouveau la même chose, il sera propre, c'est-à-dire ils ne porteront pas de responsabilité. Et la femme, elle portera sa faute, le cas échéant. Donc on parle du cas de figure où la femme adultère. Voilà, j'ai regardé avec vous un peu en détail. On n'a pas du tout raconté toute la procédure, en fait. Mais c'est une drôle de procédure. Cette procédure s'appelle... En français, c'est une ordalie, ça veut dire ce que quelqu'un appelle Hachem à juger quelqu'un. Il a demandé le jugement du ciel.
Tout simplement.
Pas compris.
Pourquoi il ne la répond pas? Tu dis pas tout simplement.
Oui. Bon, alors, je vais vous dire un peu plus de détails sur cette procédure. Commençons par la fin. Cette femme, si elle n'avait pas été adultère. Alors on dit qu'elle va avoir, elle va avoir un enfant. Donc on peut se demander effectivement, c'est quoi l'état d'esprit d'une femme qui a, que son mari a fait passer par un processus qui est à la fois d'une grande humiliation, d'une grande souffrance, d'une énorme fatigue, une tension pas possible. Est-ce que cette femme, elle a vraiment envie d'avoir un enfant de cet homme-là? Et quel est le statut de ce couple? Alors, il faut que vous compreniez la chose, que vous sachiez la chose suivante. À partir du moment où l'homme a averti la femme de ne pas s'isoler avec la personne en question. Je ne veux pas que tu t'isoles avec la personne. Alors, on va se placer dans le cas un peu idéal. Lui, il l'a averti devant deux témoins. Et la femme, elle va, elle s'isole avec la personne en question. Et il y a des témoins de l'isolement, mais il n'y a pas de témoins qui s'est passé quoi que ce soit dans... Ils sont entrés ensemble dans une pièce, ils sont restés un certain moment et puis ensuite ils sont sortis. Et les témoins ont simplement vu qu'ils se sont isolés, mais c'est tout, ils n'ont rien vu d'autre évidemment. S'ils avaient été témoins de l'adultère, alors ce serait une autre affaire. Maintenant, donc ils n'ont rien vu d'autre. Mais le processus, à ce moment-là, le processus est engagé. Ça veut dire que le mari ne peut pas dire « bon, finalement, je change d'avis. On arrête, on continue la vie. » S'il veut divorcer, il peut évidemment divorcer. Mais il ne veut pas divorcer. Il ne peut pas arrêter le processus. Il est obligé d'aller jusqu'au bout du processus. Par contre, d'abord, il faut dire, alors maintenant, à partir de ce moment-là, ce couple-là, ils sont mari et femme, mais ils n'ont pas le droit, ils n'ont plus le droit de vivre ensemble, d'avoir des rapports ensemble. S'ils avaient des rapports ensemble, par exemple, supposez que ce couple-là, il vivait dans le Galil. Alors, ils sont allés d'abord voir un Cohen, etc. Puis finalement, le mari, il a, après avoir parlé avec le Cohen local, il a décidé d'amener sa femme au tribunal à Yerushalayim. Il n'y a qu'à Yerushalayim qu'on pouvait faire ça. Si en chemin, ils font le chemin ensemble, en vérité. Si en chemin, finalement, ils passent la nuit ensemble dans l'auberge parce que le chemin est trop long, et qu'ils ont des rapports, c'est fini. La procédure, elle ne peut plus marcher. Mais, à partir du moment où la procédure est commencée, ils ne peuvent plus vivre ensemble que si la procédure est allée jusqu'au bout et que Lord Ali a donné, c'est comme si Hachem lui avait dit au mari, tu peux vivre avec cette femme, elle t'est permise. Et lui, le mari, il ne peut plus jamais divorcer. La femme, par contre, à ce moment-là, elle peut divorcer, mais alors, tout au long de la procédure, la femme pouvait à tout moment dire « Écoutez, moi, je suis effrayée par ces processus, elle n'a pas besoin de dire quoi que ce soit d'autre, je préfère divorcer. » À ce moment, il divorce. Le mari ne peut pas empêcher. Donc, en réalité, ce processus-là, on ne le comprend pas si on ne fait pas l'hypothèse que le mari en question, il soupçonne sa femme, mais il veut continuer. A priori, il voudrait vivre avec elle. Il veut continuer de vivre parce que s'il voulait, comme vous avez dit très justement, si ça ne lui plaît pas, il n'a qu'à divorcer. Or, il ne le fait pas. Alors, vous me dites, peut-être c'est un sadique, il a envie que sa femme souffre, etc. C'est possible, mais a priori, c'est pas fait pour ça. La procédure, elle est faite pour un couple un peu spécial. enfin, disons, du point de vue du mari, et du point de vue de la femme aussi, parce que la femme, quand elle s'est isolée, dans l'hypothèse où elle n'est pas adultère, lorsqu'elle s'est isolée avec la personne contre laquelle enfin, elle a été mise en garde, elle savait bien qu'elle mettait le doigt dans l'engrenage. Mais seulement, elle s'est peut-être dit, non, pas question, moi je suis insoupçonnable, je peux m'isoler avec machin, etc., il ne va rien m'arriver. Bien sûr que, bon, en fait, elle a probablement raison, il ne va rien lui arriver, mais elle va devoir passer une procédure, parce que bon, on ne voit pas ça dans le texte de la Torah directement, mais en réalité, on voit dans la Gemara, on fait tout ce qu'on peut pour que la femme n'aille pas jusqu'au bout. On a très très peur qu'elle soit en vérité adultère et qu'elle aille jusqu'au bout. On ne veut pas qu'elle meure. Elle n'a qu'à dire « je divorce ». Elle n'a pas du tout besoin de dire « je divorce parce que je suis adultère ». Je divorce parce que j'ai peur, parce qu'effectivement la procédure, elle est fatigante. On la fatigue. On la fait marcher d'un côté, de l'autre, etc. Pour qu'elle dise « ah, j'en ai marre, je préfère divorcer que de continuer tout ce cinéma là, c'est insupportable. » Donc il faut dire que a priori ni l'un ni l'autre ne veut absolument divorcer, parce que c'était possible. Lui pouvait divorcer, pas mettre la procédure en marche. Elle peut à tout moment dire aussi qu'elle divorce. Alors c'est pas exactement symétrique, parce que si c'est elle qui décide de divorcer, elle ne reçoit pas le montant de la ktouba. Bon, c'est une question d'argent, c'est pas. Mais disons, elle peut obtenir le divorce, elle peut obliger son mari à divorcer. Donc, c'est une procédure très étrange. On peut se demander pourquoi il faut aller déranger Hachem pour cette question-là, si on veut parler comme ça. Parce que il faut que vous soyez bien consciente que dans cette paracha qui est écrite sur ce parchemin dont on va effacer le contenu dans l'eau et qu'elle va boire, dans la paracha, il y a, c'est tout ce qui est écrit ici, et il y a le nom d'Hachem. Bon, c'est marqué dans le pasouk, « Ve'amar ha-kohen la'isha, iten Hachem otach la'ala belishwa ». Il y a le nom d'Hachem. Donc on va effacer le nom d'Hachem, ce qui est un interdit complet. On n'a pas le droit d'effacer le nom d'Hachem. Et Hachem accepte qu'on a, c'est comme ça que c'est présenté, Hachem accepte qu'on efface son nom. Pourquoi ? Pour sauver le couple. Pour sauver. Parce qu'a priori, on pense qu'une femme qui serait adultère, a priori, sauf si elle est absolument, elle pense qu'il va rien lui arriver, elle pense que tout ça c'est de la blague, que ça n'arrivera pas, etc. Mais si elle envisage que ça peut arriver, pourquoi est-ce qu'elle prendrait un risque pareil? Risquer de, c'est pas simplement mourir, c'est mourir de façon tout à fait dégradante et probablement douloureuse. En tout cas, très dégradante. Et même toute la procédure est un peu dégradante, qu'on découvre sa chevelure, en vérité, on va tirer sur ses vêtements, on va déchirer une partie de ses vêtements, on ne va pas les recoudre, on va les faire tenir avec une ficelle de rien du tout, etc. Donc, c'est très dégradant. Alors, il n'y a pas beaucoup de public, hein, c'est pas vraiment très public. Bien qu'on parle de celui qui a vu la sota dans son état dégradé, mais il n'y a personne, quasiment personne à ce moment-là. Mais les gens ne peuvent pas entrer dans. Donc même depuis la porte, peut-être quelques personnes voient de loin quelque chose, mais je ne pense pas qu'il y avait des caméras ni des jumelles pour voir ce qui se passait de plus près. Et donc, on a affaire à une procédure très étrange. C'est, Je ne sais pas comment vous entendez ça. C'est un couple assez improbable, finalement. Peut-être que non. En tout cas, pour moi, c'est très improbable d'avoir un couple avec des idées pareilles. Alors, et ensuite, après toute la procédure...
Est-ce qu'on peut juste poser une question ?
Oui.
Moi, je trouve qu'on est quand même en droit de se demander quel amour il pourrait rester dans le cœur de cette femme à l'endroit de ce mari qui la soupçonne et qui la...
Mais non, de cette manière, je vous ai dit au tout début, je ne comprends pas très bien si cette femme a vraiment envie de continuer sa vie avec lui.
Donc, on comprend
elle, elle peut dire, je ne continue pas. Lui, il ne peut pas arrêter. Si elle a survécu, lui, il ne peut pas divorcer.
Mais il va se retrouver...
Peut pas, ça veut dire, elle peut l'obliger à divorcer, mais lui, il ne peut pas prendre l'initiative de divorcer.
Donc, on imagine tous, me semble-t-il, qu'il va se retrouver marié avec une femme qui ne va plus l'aimer, voire même qui va avoir une certaine rancune à son égard. Et alors, du coup, je me demandais, premièrement, est-ce qu'il y a beaucoup de divorces à l'époque ? Le divorce existait à l'époque beaucoup, je ne sais pas.
Est-ce oui, que ça existait. Pas...
J'ai pas entendu. Excusez-moi.
On ne sait pas vraiment, je ne connais pas les statistiques de l'époque. Je ne sais pas si les divorces étaient fréquents. Je ne sais pas. Si vous voulez, on peut dire que les divorces étaient fréquents ou pas. Je crois pas qu'on puisse.
On ne sait pas.
On ne sait pas du tout. Il semble que peut-être une fois ça a eu lieu, cette paracha. Autrement, on n'est pas vraiment sûr que ça n'a jamais eu lieu. Si ça n'a jamais eu lieu, alors ça veut dire que. Cette paracha-là, c'est quelque chose qui nous a été donné comme objet d'étude. Donc, il faudrait essayer de comprendre ce qu'il y a là derrière. Alors, évidemment, le premier essai, c'est de se dire qu'éventuellement, ce rapport entre l'homme et la femme, c'est le rapport entre le clan d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Et donc, là, il faudrait essayer de regarder si cette procédure, en fait, elle correspond à quelque chose, justement, dans les rapports entre Akadosh Baruch Hu et le clan d'Israël. Quand le clan d'Israël penche vers, vous savez bien que très souvent, l'idolâtrie du clan d'Israël est présentée comme un adultère par rapport à Hachem. Mm-hmm. Et donc, il faut les regarder, est-ce qu'on peut rendre compte du détail, en quelque sorte, de la procédure, essayer de comprendre, mais peut-être que c'est pas seulement ça, il n'y a pas que ça qui est derrière, il y a peut-être autre chose qu'il faut essayer d'interpréter, pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Ça a l'air d'être un très gros morceau, en quelque sorte, pour quelque chose dont on ne voit pas très bien que ce soit, c'est sûrement pas très fréquent en tout cas, cette situation-là. Mais est-ce que ça veut dire que d'abord, c'est un problème de savoir est-ce qu'il faut finalement, s'il a une question, il peut aller voir son rave et discuter avec son rave ou avec des gens en lesquels il a confiance pour savoir ou bien l'apaiser ou lui donner le courage de divorcer si effectivement il ne peut plus vivre avec cette femme parce qu'il la soupçonne d'adultère. Mm-hmm. Donc, pourquoi...
Il la tue.
Pardon ?
Il la tue avec la complicité des prêtres. C'est ça que je ne comprends pas. Il la tue avec la complicité des prêtres et de Hachem. Pourquoi elle ne serait pas simplement exclue ? Il y a eu des...
Mais pourquoi vous dites, pourquoi dites-vous qu'il la tue ? Elle peut dire, mais à tout moment, elle peut dire, je ne continue pas. Elle peut dire, à n'importe quel moment... Jusqu'au moment où on aura effacé le Shem Hashem, c'est-à-dire très, il y a un long temps jusqu'à ce qu'on efface le Shem Hashem, d'accord. Donc, durant toute la procédure, elle peut dire à tout moment, je continue pas, je divorce. Donc, il n'y a pas de complicité quoi que ce soit. Au contraire, tout ce que montre la discussion, il y a tout un volume de la Gemara qui est beaucoup consacré à cette paracha. Cette histoire de Sota, où on voit justement tous les efforts qui sont faits pour empêcher de qu'elle meure. C'est vraiment, si elle arrive au bout et elle va boire, et sachant qu'elle est adultère, cette femme-là, c'est un suicide vraiment incompréhensible. Alors ensuite,
il y a un autre sens, alors en fait, vraiment à travers ça, c'est… Il ne faut pas s'arrêter simplement à l'histoire du couple homme-femme, il faut vraiment creuser derrière.
Oui, il faudrait essayer de voir si on a une idée, autre que le cas classique où on dit que le couple, c'est le couple entre Hachem et le clan Israël. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, c'est un peu difficile à… il faut regarder, il y a une littérature hassidique qui explore ces chemins-là. Moi, personnellement, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé quelque chose de très intéressant, si vous voulez, derrière la procédure, qui est très impressionnante. On apprend beaucoup de choses, etc., y compris sur la psychologie des gens, etc. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose derrière, mais moi, personnellement, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas ce qu'il y a vraiment derrière. Je connais un peu la littérature chassidique là-dessus. Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais bon, je ne sais pas. Si jamais vous voyez quelque chose d'intéressant. C'est sûr que c'est intéressant de voir ça par opposition à justement au fils de Tzlofrod qui, elle, justement, parle et produisent de la Torah. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que cette femme-là, elle est quasiment muette. Je vous ai dit, la seule chose qu'elle dit, c'est deux fois « Amen » pour endosser la chevoie, le serment. Et donc ça, c'est un peu… Ça, c'est frappant. Donc, maintenant, je voulais juste revenir sur ce point de cette ordalie, appeler Hachem pour juger une question. L'exemple où quelqu'un appelle Hachem pour juger, l'exemple classique, c'est Sarah Imenu. Mais ce n'est pas du tout sur ce plan-là, mais elle a demandé à Hachem de juger entre elle et Abraham. Parce que vous vous souvenez que Sarah a accusé Abraham. Elle lui a dit quand Abraham et Sarah étaient tous les deux donc stériles, Abraham a dit à Hachem, tu me promets un peuple, etc., mais j'ai même pas d'héritier. Celui qui va hériter de moi, c'est Eliezer. C'est quelqu'un de bien, mais enfin, c'est pas mon héritier. C'est mon élève. Et Hachem, donc il lui a demandé quasiment qu'Hachem lui promette un enfant. Donc Hachem lui a promis un enfant, qu'il aurait un enfant. Et du coup, lui, il a guéri de sa stérilité et il a commencé par avoir un enfant avec Agar, comme chacun sait. Et à ce moment-là, Sarah lui a fait un énorme reproche. Elle lui a dit, en vérité, quand tu as dit « je n'ai pas d'héritier », tu aurais dû dire « nous n'avons pas, Sarah et moi, nous n'avons pas d'héritier, nous n'avons pas d'enfant ». Et donc, à ce moment-là, comme Hachem t'a répondu, il t'aurait répondu et il nous aurait répondu. Et on aurait eu, nous, un enfant ensemble, sans passer par Agar, etc. Et elle dit à Abraham, je t'en veux énormément. Et le Midrash dit, je vous l'ai raconté plusieurs fois, le Midrash dit que Sarah, elle a battu Abraham et l'a griffé, etc. Bon, je ne sais pas s'il allait voir l'association des maris battus, mais en tout cas, ça s'est mal passé pour lui, semble-t-il. Mais Sarah, elle a dit, elle a appelé Hachem, elle a dit, elle a demandé à Hachem qu'il juge. Elle a dit, Hachem, juge entre Abraham et moi. Et ça, ça lui a, ça n'a pas été vraiment bénéfique pour elle. C'est une des raisons pour lesquelles elle est morte bien avant Abraham. Parce qu'on n'appelle pas le jugement d'Hachem sur quelqu'un impunément. En général, on explique que si tu appelles le jugement d'Hachem, alors avant de... Alors Hachem, il demande, mais qui appelle là? C'est qui est-ce qui proteste là? Et on regardera d'abord son dossier. On a regardé d'abord le dossier de Sarah, et comme personne n'est parfait, alors c'est elle qui a... C'est celle qui a été punie, enfin, c'est elle qui est morte avant, donc, à cause de ça. Donc, c'est un cas de figure, effectivement, appeler le jugement d'Hachem sur quelqu'un, c'est extrêmement dangereux. Et là, en l'occurrence, il appelle le jugement d'Hachem. Au lieu de régler son problème, tu as un problème, règle ton problème. C'est marqué Ish. Tu es un Ish, alors, tu es quelqu'un, tu es un homme, ben, sois un homme. Et assume, tu n'es pas content de ne veux plus vivre avec cette femme, divorce. Bon, alors comme je vous ai dit, tout ça n'a commencé que parce que, premièrement, lui, il l'a averti devant témoin, et ensuite, elle, même si elle était effectivement pas du tout adultère, elle a peut-être piqué la mouche, elle a dit que de quoi il me soupçonne, etc. Je suis insoupçonnable, je peux très bien m'isoler avec quelqu'un sans qu'il se passe quoi que ce soit. C'est une erreur, on n'a pas le droit de s'isoler. Un homme et une femme peuvent pas, qui ne sont pas mariés ne peuvent pas s'isoler. Elle a fait une erreur, mais cette erreur, elle n'interdit pas une femme qui s'isole avec un homme, elle n'est pas interdite à son mari avec ça. Donc, il y a quand même une part de mauvaise compréhension de ce que voulaient dire les choses. Elle a peut-être été très, très vexée d'être soupçonnée de cette manière-là. On peut très bien comprendre. Et lui aussi, c'était une drôle d'idée, ce Ruach Kina, cet esprit de jalousie qui lui vient, alors que même dans l'hypothèse où elle était adultère, mais il en a rien su, quoi. Quelque part, ça a créé une atmosphère à laquelle il a été sensible. Peut-être que ça se ressent quand même. Donc ça, c'est déjà une question sur laquelle on peut réfléchir. Est-ce que ça peut passer complètement inaperçu? Cet adultère, est-ce qu'il peut rester vraiment complètement inaperçu? La Torah, elle dit bien clairement que lui n'en a rien su. Il ne sait pas. Maintenant, il y a peut-être encore un point à remarquer. Dans le deuxième pasouk, le pasouk dit « Ish ish kitiste ishto » ou ma'ala ma'bo ma'al. La me'ila, c'est la chose suivante. Il y a un interdit, comme tout le monde sait, il y a un interdit de voler, mais quand la victime du vol, c'est ce qu'on appelle hekdesh, c'est-à-dire si on a volé des choses qui appartiennent au Beit HaMikdash, etc., alors ça s'appelle me'ila. Et c'est un statut un peu particulier, c'est que, comme dans tous les vols, on doit restituer l'objet volé s'il est là, ou sa contre-valeur si l'objet n'est pas là. Dans le cas du vol entre deux humains, ça suffit. Mais si on a volé quelque chose qui appartient à Ekdesh, c'est-à-dire au Beth Amikdash, alors on doit rembourser, on doit ajouter un cinquième, 1% de plus, c'est une espèce d'amende, et on doit apporter un korban qui s'appelle Hacham Meila. C'est un korban pour la faute du vol. Et là, on utilise pour ces relations interhumaines la même terminologie, Ma'ala Bo'Ma'al. C'est-à-dire, étant donné que les rapports, dès le moment où il y a eu des kiddushin entre un homme et une femme, donc il y a une notion de kedusha qui permet de considérer que cette trahison, disons, que représente l'adultère, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la me'ila. En passant, on nous dit que ça a une dimension. C'est pas simplement une trahison, ce qui est déjà assez grave, une trahison entre deux personnes qui étaient amies et puis il y en a une qui trahit. Bon, c'est une trahison. C'est du vol, le vol de la confiance. Quoi. Il y avait une confiance et la confiance a été abusée. Enfin, on a perdu cette confiance. Elle était mal placée ou peut-être à un moment donné, elle était bien placée, mais la personne s'est trouvée dans une situation où finalement, elle n'était plus digne de confiance. Et là, on nous dit que c'est particulier ici, entre un homme et son épouse. C'est un problème du vol de la Kdusha, la dimension de Kdusha est affectée ici, dans cette affaire. Voilà ce que je voulais encore ajouter sur cette paracha. Voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui. A priori, il y aura Shiur dimanche soir. Voilà.